Entame ton après-midi en douceur avec un grain d'inspiration et un nuage de singularité. Au Café des Métiers, tu découvriras la face cachée de certaines professions, tu envisageras une nouvelle vocation ou tu te reconnaîtras dans le partage de l'invité du jour. Motivation, difficulté, doute, espoir et passion. Installe-toi et laisse-toi embarquer par le Café des Métiers. Tout de suite, sur Prune. You may have the money, but you've got to go. It's sensible, it's sensible. And those endless seasons that go on and on, incredible. But I'd sooner get out.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café des Métiers. Moi c'est Charlotte et tous les mercredis on se retrouve pour découvrir les coulisses professionnelles de l'invité du jour. Installez-vous confortablement, servez-vous peut-être un café latte et laissez-vous embarquer par l'univers de la Voie lactée. S'il existe bien un domaine qui fascine toujours autant un grand nombre de personnes, c'est l'astronomie. De par sa grandeur et ses mystères inatteignables, entre autres. Donc à défaut de devenir astronaute, il nous est possible aujourd'hui de découvrir l'astronomie, d'explorer l'espace, les planètes, de comprendre l'univers grâce aux livres et reportages. Mais pour une immersion plus humaine, le planétarium de Nantes est l'endroit idéal. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir au Café des Métiers Vincent Jean-Victor, médiateur scientifique au planétarium de Nantes. D'une formation de chef de rayon en grande surface à l'univers des étoiles, nous allons partir à la découverte d'un parcours peu commun et d'un métier qui pourra vous inspirer de nouveaux horizons professionnels ou d'une sortie pour les prochains week-ends. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Bienvenue au Café des Métiers et merci de venir nous partager ton expérience au micro de Prune. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste le métier de médiateur scientifique ?
Alors, médiateur scientifique, ça fait appel à la notion de médiation. La médiation, c'est-à-dire le lien entre deux univers, hein, finalement. Donc là, en l'occurrence, on fait la médiation entre la science et le public. C'est-à-dire, on essaye d'expliquer avec des termes simples, des notions qui peuvent paraître parfois complexes, qu'ils ne sont pas toujours, hein, mais qui, en tout cas, dans l'esprit des gens, sont des choses qui semblent complexes.
D'accord. Voilà. On va développer un petit peu plus après une journée type pour toi, comment se préparent les présentations. Mais avant, comment en es-tu arrivé à travailler au planétarium ?
Oh, c'est une longue histoire, ça. C'est une longue histoire. On va dire que j'ai eu un début de carrière très chaotique, en fait, parce que je ne savais pas quoi faire de ma vie. Voilà. J'avais de nombreuses passions, je m'intéressais à plein de choses. Aucune de ces choses-là était susceptible de me faire vivre, hein, de toute façon. Et puis, je n'ai pas eu forcément un parcours scolaire très académique, à tel point que je me suis assez vite retrouvé à être obligé de faire un métier sans avoir vraiment de formation. Parmi les métiers qui existaient, je me suis retrouvé dans le commerce assez rapidement, assez facilement, finalement. D'abord en vendant des encyclopédies, des choses comme ça en porte-à-porte. Et puis je me suis sédentarisé, j'ai découvert le métier de responsable de rayon en grande surface. En fait, j'ai fait une formation professionnelle adulte, hein, à l'AFPA, pour apprendre ce métier.
C'est une formation en alternance ?
Oui, non, c'est une formation, c'était une formation sur une année à peu près, qui décernait un diplôme de catégorie 4, hein, donc le niveau bac que je n'avais pas à ce moment-là. Hein, donc,
d'accord.
Voilà, c'était aussi une façon de me dire, oui, si j'ai quand même quelque chose d'équivalent au bac, quoi, voilà. C'était une autre époque, hein, le bac, ça suffisait dans de nombreux cas. Et donc de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans le commerce, donc. Puis après avoir travaillé dans plusieurs enseignes, le magasin Nature et Découverte a ouvert à Nantes en 2016. En 1996, désolé, en 1996, à cette occasion-là, eh bien, j'ai postulé pour travailler au magasin de Nantes, dans la mesure où, depuis quelques années, je m'intéressais à l'astronomie. J'étais astronome amateur par l'intermédiaire d'associations. J'avais découvert l'astronomie et puis...
Des associations qui existent encore
aujourd'hui ? Oui, la SAN, la Société d'astronomie de Nantes notamment. Mmh. Voyageurs 3 Astronomie également, peut-être ils nous écoutent, à Sévérac, dans le nord du département. Et puis, du coup, effectivement, en 96, en postulant pour le poste alors on appelle ça guide conseil, mais on va dire vendeur ou chef de rayon, si on veut, chez Nature et Découverte, dans le rayon Astronomie, qui représentait une grosse part du chiffre d'affaires à ce moment-là. Ça représentait quelque chose comme 10% du chiffre d'affaires magasin, c'était assez énorme. On ne trouvait pas de télescope partout. Et donc, je me suis spécialisé là-dedans. Assez rapidement, ma foi, j'ai découvert la transmission, puisque je me suis retrouvé au bout de 6 mois formateur à l'école de formation de Nature et Découverte pour former d'autres gens chez Nature et Découverte, d'autres vendeurs. Et puis, j'y ai pris plaisir, j'y ai pris goût. Ça a continué comme ça pendant 13 ans. J'ai fait ça pendant 13 ans. Et parallèlement, je faisais également des animations sur le terrain. Je ne sais pas si vous savez que le Nature et Découverte organise des sorties nature. On appelle ça des sorties nature, d'accord, finalement. Là, en l'occurrence, sur l'astronomie. Donc, on faisait des observations, des choses comme ça. Et je dois admettre qu'assez rapidement, la formation et l'animation avaient une part beaucoup plus importante pour moi que le commerce. Enfin, le commerce était là pour, parce qu'il fallait aussi. Mais
c'était pas ce qui
l'animation et la formation me passionnaient vraiment. Voilà, et puis un beau jour, un poste s'est ouvert au planétarium et j'ai sauté sur l'occasion. J'ai postulé. Je connaissais un petit peu aussi les gens qui travaillaient au planétarium, puisque le monde de l'astronomie, c'est un petit monde. Et puis, je me suis retrouvé assez rapidement, dans le bain et j'ai vraiment apprécié.
Tu as eu une formation à l'arrivée au planétarium ?
Alors, une formation au planétarium, non. En fait, c'est vraiment quelque chose, c'est au long cours. C'est-à-dire qu'on apprend sur le tas, finalement. Mmh. On apprend à animer, on apprend à transmettre, etc. Et ça, c'est déjà des choses que j'avais apprises, justement, notamment chez Nature et Découverte, avec l'animation et la formation. J'avais fait un petit peu d'animation avant également, dans une autre vie encore, mais... J'ai eu tellement d'expériences différentes.
Oui, très variées.
Travaillant à Disneyland notamment.
Ah oui,
J'ai fait de l'animation là-bas.
D'accord.
Aussi. Et oui, c'était...
Donc il vaut mieux quand même avoir une expérience en amont avant de devenir médiateur scientifique. C'est pas quelque chose qu'on peut espérer atteindre à la sortie des études.
Alors, c'est comme beaucoup de métiers en fait, c'est quelque chose qui effectivement vient avec une certaine expérience peut-être, puis avec des compétences qui sont pas forcément des compétences qu'on apprend systématiquement à l'école. C'est-à-dire que pour être médiateur scientifique, il faut avoir une part de pédagogie, il faut avoir quelques connaissances quand même sur le sujet qu'on évoque, et puis il faut avoir la capacité aussi de s'exprimer auprès des gens. C'est pas donné à tout le monde, certains y arrivent, d'autres moins. Et donc toutes ces choses-là s'acquièrent avec le temps, je pense, ou peut-être pour d'autres de façon innée, ça dépend, mais en tout cas, c'est pas des choses qu'on apprend comme ça dans un bouquin, où on peut pas faire une formation pendant un an et dire « bon ben voilà, ça y est, je sais faire ci, je sais faire ça ». C'est pas des connaissances, c'est des savoir-faire. C'est des savoir-faire, et le savoir-faire, ça s'apprend sur le tas, quoi.
Et donc, tu as dû réapprendre un métier à de nombreuses reprises. Est-ce que ça a fait changer ton rapport au travail ?
Oui et non. La grosse, grosse, grosse différence que j'ai trouvée dans tous les métiers que j'ai fait dans ma carrière, c'est le fait de passer d'une entreprise privée qui a pour objectif de faire des bénéfices. Et donc, il faut être performant, productif, etc., etc. À ce métier de médiateur scientifique où, en l'occurrence, le nerf de la guerre, ce qui va nous emmener à performer, c'est de satisfaire finalement notre auditoire. L'idée n'est pas de gagner de l'argent, mais de transmettre quelque chose et d'apporter quelque chose de nouveau à la personne qu'on a en face. Alors évidemment, l'argent est toujours présent pour... on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Il y a une part d'altruisme, en fait, qu'on retrouve d'ailleurs... Alors, il se trouve que le planétarium de Nantes, là où je travaille, est une structure métropolitaine. Donc, je travaille donc dans la fonction publique, en quelque sorte. Je suis fonctionnaire, du coup. Ce n'est pas le cas de tous les planétariums. Certains sont des planétariums privés, où à ce moment-là, il va y avoir effectivement une notion de profit et les choses se passent différemment, on va dire. C'est pas toujours exactement similaire. Malgré tout, c'est quand même un métier où le plaisir de la transmission doit être là. Ouais, c'est notre but, quoi. C'est ça, c'est de
transmettre,
que les gens repartent avec plus que ce avec quoi ils sont arrivés. Comme je dis souvent en fin de séance, je dis toujours, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des choses et que vous en avez retenu un petit peu.
Oui.
Voilà. Et dès lors que les gens repartent avec au moins quelques petites choses qu'ils ont retenues, eh bien, le pari est gagné.
Est-ce que ça t'aide à donner du sens à ton travail? De sentir que tu as une utilité comme ça, il y a un avant-après.
Oui, ça donne du sens de savoir que les gens sont venus là et qu'ils repartent avec plus de connaissances que ce qu'ils avaient avant. Qu'ils sont repartis avec plus que ce avec quoi ils sont arrivés. Quand on vend n'importe quoi dans un magasin, voilà, contribuer finalement à la société de consommation, etc.
Ouais.
Là, on n'est pas du tout dans ce domaine-là.
Tout à fait. Donc la beauté de donner du sens à son travail à travers l'apprentissage.
Le Café des Métiers, un ou une invitée, une foule d'expériences.
Alors Vincent, une journée pour toi en tant que médiateur scientifique, à quoi ça ressemble ?
En fait, les journées sont assez variables. On n'a pas toujours les mêmes activités. Médiateur scientifique, c'est pas uniquement s'installer dans la salle et expliquer les choses qu'on va montrer. C'est les préparer en amont aussi. Au même titre que un journaliste, on le voit, on voit le journal de 20h par exemple, on se dit, oh, son boulot, ça dure une demi-heure. Bah non, on se doute bien qu'il y a beaucoup de préparation avant. Exactement de la même façon, pour préparer, pour animer une séance de planétarium par exemple, il y a du travail en amont. Finalement, l'animation représente quelque chose, je pense, comme 30% de mon temps de travail. Le reste du temps va être consacré à la préparation de ces animations, à aussi une forme de veille scientifique où on va essayer de s'intéresser quand même à ce qui se passe. Il est important qu'on soit au courant de l'actualité et des nouveautés, des découvertes, etc.
Et vous avez un programme à suivre où vous avez quand même assez de liberté de proposer vous, ce qui vous intéresse ?
Alors, on a une forme de cahier des charges, entre guillemets, puisqu'on a un programme. Si je fais une séance sur les planètes, il va falloir que je parle des planètes. Voilà. Et ce serait dommage de parler des planètes et de ne citer que Mars et Jupiter, par exemple. Donc, on va essayer de... On a, comme je disais, un cahier des charges. On considère que, voilà, dans la séance qui s'appelle Planète, avec, au planétarium, avec
l'équipe,
mes collègues, avec toute l'équipe, avec tout le monde, sur le contenu non négociable qu'il y avait à l'intérieur d'une séance. Et notamment, on dit, on va voir le Soleil, la Lune et les planètes. Voilà, on va voir tout ça. Maintenant, on a une heure pour articuler tout ça. Et donc, dans certains cas, on va passer un peu plus de temps sur telle ou telle planète, ou sur telle ou telle, peut-être sur la Lune, peut-être sur le Soleil, même si ce ne sont pas des planètes. On peut y passer du temps parce que ça a du sens d'en parler dans cette séance. Et donc, on a une trame, et puis autour de cette trame, on va passer plus ou moins de temps sur telle ou telle chose. Voilà. On a plaisir à Nantes à travailler en direct. On aime bien animer toutes nos séances en direct, un maximum de séances en direct en tout cas. On va pas passer un film.
Oui.
On passe des séquences qui sont calculées en temps réel, en général, avec notre simulateur. C'est-à-dire que on présente les choses, on dit on va aller auprès de Jupiter, on s'en va auprès de Jupiter. On arrive au tour, on dit et si on faisait un tour et on va pouvoir faire un tour de Jupiter par
D'accord.
exemple.
Parce que pour
etc.
ceux qui ne connaissent pas une séance au planétarium, les images sont projetées sur le plafond.
Le dôme, oui.
Ouais, sur le dôme, pardon.
C'est ça.
Et vous en même temps, vous expliquez, comptez l'histoire du thème. Et c'est pas quelqu'un à l'arrière en régie par exemple qui va. qui va modifier les images en fonction de vos paroles? C'est vous qui vous adaptez
on est,
à l'image?
Non, on est, ben c'est ni l'un ni l'autre. En fait,
d'accord.
C'est on a notre outil, c'est une tablette en l'occurrence, sur laquelle on a des raccourcis qu'on a créés avant, hein, qu'on a absolument créés et qui vont lancer une séquence qui va être calculée en temps réel. C'est un peu comme une forme de script en quelque sorte. Hein. C'est un petit peu comme une macro sur Excel ou quelque chose comme ça, par exemple, ou n'importe quel autre logiciel. Mais je lance la macro et ça va créer. Il va y avoir un certain nombre d'ordres qui vont être donnés à la machine et on va lancer du coup une animation qui dit voilà, on va de la Terre à la Lune, par exemple. On va y aller en 30 secondes. On va rajouter une musique derrière. On va progressivement porter le regard sur la Lune, ou bien à l'inverse, continuer à regarder la Terre qui s'éloigne. On va déterminer à quel endroit du dôme l'animation va avoir lieu, etc. etc. Enfin, c'est tout un scénario en quelque sorte, et c'est un peu comme si on filmait quelque chose, mais qu'à chaque fois on le filmait en direct.
D'accord.
C'est-à-dire que on montre des choses et ça peut varier d'une séance à l'autre, parce qu'il suffit de dire non, bah, finalement je ne vais pas passer par là, je vais passer par ailleurs, et voilà.
Donc ça laisse une certaine liberté
en quelque sorte,
voilà. Présentation.
On pourrait comparer ça à une visite guidée que ferait un guide dans la ville de Nantes, par exemple.
Mais là, c'est un guide de l'espace.
Sauf qu'on est un guide de l'espace, voilà, c'est ça. Et que donc le trajet qu'on va faire pour aller montrer telle ou telle chose, ben on va le faire en direct, mais on va le faire dans un simulateur, avec des choses qui sont quand même plus ou moins pré-réglées, de façon à ce qu'on n'ait pas trop de surprises.
Ouais.
Quand on va
en direct.
Voilà.
Et tu disais tout à l'heure que vous devez tout le temps vous mettre à jour des nouvelles connaissances vis-à-vis de l'espace et de le domaine de l'astronomie en général. Est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises qui t'ont surprise vraiment particulièrement ou qui t'ont marqué ces derniers mois ou l'année passée?
C'est difficile de répondre à cette question comme ça, brûle pour point. J'ai vu une photo il y a quelques jours et je me suis dit il va falloir que je regarde ça d'un peu plus près parce que ça m'a surpris. Et je dois admettre que je n'arrive plus à me souvenir de quelle... Je revois vaguement la photo et je me suis dit c'est pas possible qu'ils aient réussi à faire ça. Si, c'est une photo de Vénus. Les Japonais ont fait une photo de Vénus visiblement surprenante. Mais je l'ai entreaperçue. J'ai
D'accord.
dit, il faut absolument que je regarde ça de plus près.
Okay.
Voilà, une photo assez inédite.
En quoi elle était surprenante ?
Elle était surprenante par ses couleurs, en fait. Ce que j'en ai vu me semblait assez étrange. Alors, je me méfie aussi parce qu'on voit tellement de choses aujourd'hui qui sont finalement...
Fausses, hein.
Enfin, on se rend compte que c'est de l'intelligence artificielle qui a généré des choses. Donc, n'ayant pas eu le temps de regarder ça en détail, je me suis dit, il faut que je regarde de plus près pour savoir ce que c'est que cette photo. Est-ce qu'effectivement, c'était juste une photo d'illustration dans un article ou est-ce que c'était vraiment une photo qui a été...
C'est vrai que c'était une question peut-être un petit peu trop vaste et compliquée. Mais alors, j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a des présupposés que les gens peuvent avoir en général ou des fausses croyances, des questions qui peuvent te poser assez innocentes, qui reviennent?
Ça, il y a tout le temps. Il y a des tas de choses, des tas d'idées reçues que les gens ont sur différents sujets. Et on se rend compte que, dans de nombreux cas, on va remettre ça un petit peu en perspective et se rendre compte que finalement, on se trompe complètement. Enfin, quand je dis on, je veux dire, de façon générale, le public va se tromper. Si on dit, par exemple, dans l'espace, on flotte, vrai ou faux? Voilà. Tout le monde va dire, c'est bien connu que dans l'espace, on flotte. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec le fait d'être dans l'espace. Quand on voit des astronautes flotter dans la station spatiale, c'est simplement qu'ils sont en chute libre. C'est-à-dire qu'il y a toujours de la gravité, ils sont toujours attirés par la Terre, puisqu'on est toujours attiré par la chose la plus grosse qu'on a à côté de toi, ça s'appelle la gravité. Hein. Et donc, ils sont attirés par la Terre, mais ils vont suffisamment vite pour tomber au-delà de la courbure de la Terre. D'accord. Ce qui fait qu'ils sont en chute libre permanente sur la Terre. Mmh. Et ça, souvent, c'est une surprise pour les gens. Ils se disent, bah oui, je ne me suis jamais posé la question de cette façon-là, mais c'est vrai qu'après tout, le fait d'être dans l'espace n'a rien à voir avec le fait d'être en impesanteur.
Oui. Peut-être voilà. Que pour certaines personnes, il y a la Terre dans un bloc et de l'autre bloc, tout le reste de l'espace, et ce n'est pas lié.
C'est un peu ça.
Peut-être. D'accord. Alors, je pose une question. Comment on peut gérer ça quand au quotidien, on parle de l'univers et qu'on a conscience de la toute petite place qu'on a, du petit grain de sable qu'on est. C'est une question un peu philosophique, mais est-ce que c'est pas vertigineux au quotidien ?
Alors c'est vertigineux, effectivement, mais c'est un peu, même complètement une grosse partie de mon travail, de justement essayer de faire toucher du doigt aux gens... ce que sont ces dimensions gigantesques, quoi. On a du mal à se rendre compte quand on évoque des chiffres. Alors, ben, de temps en temps, on parle de milliers, voire de millions, et puis ensuite de milliards. Et quand on parle de milliards, enfin bon, on est complètement dépassé.
On visualise même plus.
On ne se rend absolument pas compte. Je dis souvent aux gens, donnez-moi un milliard de grains de sable. Voilà, un milliard de grains de sable. Quelle est la contenance ? Quel contenant il faut pour un milliard de grains de sable ? Est-ce qu'il faut une pelle ? Est-ce qu'il faut un seau, une brouette, un camion ?
Un désert ?
Voilà, on ne se rend pas compte. Et finalement, à nous de trouver les bonnes images pour pouvoir expliquer ces choses-là et permettre aux gens de percevoir effectivement le gigantisme de tout ça, les nombres démesurés, etc. Alors on développe des outils au fur et à mesure, hein. C'est des choses on a tous le même problème dans tous les planétariums du monde, hein. Il s'agit de mettre des images sur des chiffres, sur des mots, etc. Et ben on y arrive plus ou moins bien, hein. Donc on se creuse la tête pour essayer de trouver les bonnes solutions, les bons exemples. Dire par exemple que la fusée Saturne V qui a emmené les hommes sur la Lune, elle fait la hauteur de la Tour Bretagne. À Nantes, ça parle.
C'est concret.
Voilà. À Nantes, c'est du concret. On est face à la Tour Bretagne et on se dit, et moi je ne peux pas passer sous la Tour Bretagne sans la regarder en me disant, voilà, ça c'est une fusée Saturne V. Et voilà, ça c'est des choses qui prennent du sens. Alors d'autres vont dire, ça fait deux fois la longueur d'un Airbus A380. Bah oui, c'est valable si on sait ce que c'est qu'un Airbus A380, parce que moi j'ai aucune idée de la taille d'un Airbus A380, j'ai jamais été à même d'en avoir un à côté de moi, et donc les choix ils peuvent quand même avoir une influence certaine sur la compréhension, quoi.
Et pourquoi pour toi c'est aussi important que les gens prennent conscience de la grandeur de l'univers et de ce qui nous entoure?
Alors, est-ce que c'est important? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait partie du sujet, quoi. Ça fait partie du sujet. On décrit quelque chose, on en décrit la taille, la forme, la couleur. On en décrit ce qu'on peut en décrire. Et en l'occurrence, l'univers nous amène à parler de distance, forcément, quoi.
D'accord. Voilà.
Mais on peut prendre d'autres exemples sur les idées reçues, etc., ou la méconnaissance des gens. Si on leur demande de modéliser ou de nous montrer la distance sur une maquette, en fait, on leur montre la Terre, une Terre qui fait, mettons, une douzaine de centimètres de diamètre, et on leur dit, si la Terre était de cette taille-là, quelle serait la taille de la Lune, et à quelle distance il faudrait la mettre pour respecter les échelles. Et les gens sont incapables de répondre, quoi. Certains vont la mettre à 20 centimètres, elle va faire la taille d'une balle de ping-pong, à peu près. Certains vont mettre la Lune donc à 10 cm ou 20 cm de la Terre, et puis d'autres vont la mettre à 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres. Et finalement, en fait, il faut la mettre à 4 mètres à peu près. Et souvent, c'est une surprise pour les gens. Ils se disent, ah oui, c'est quand même pas la porte à côté, quoi. C'est pas simple.
C'est pas facile de se rendre compte.
Toutes ces choses-là, c'est le bon endroit, le bon moment, le planétarium, pour essayer de montrer ça. Ouais, de montrer ça et de... Voilà.
Les distances. Maintenant, on part sur une petite pause musicale avec le morceau Do You Feel Me de Kirk Wallum, choisi par Vincent. Mmh. C'est Charlotte et on est toujours au Café des Métiers sur Prune. Vincent, qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans cette musique et dans le style smooth jazz ?
C'est la musique que j'écoute quand je travaille, sur la conception d'une séance ou d'un script, de quelque chose. Je suis devant mon ordinateur, je me mets un casque, ça m'isole. Ça me permet de me concentrer pas mal. C'est le genre de musique qui m'aide beaucoup à la concentration. Voilà, donc j'aime beaucoup ce genre de musique.
D'accord.
Voilà, le smooth jazz.
Voilà. Vincent, si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un qui souhaiterait devenir, comme toi, médiateur scientifique, qu'est-ce que tu lui dirais ?
Tout d'abord, il faut se poser la question, est-ce qu'on est à l'aise avec le public ? Est-ce qu'on aime expliquer les choses ? Est-ce qu'on aime transmettre ? Et puis, est-ce qu'on a la capacité de le faire ? Parce que ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Il y a des gens qui sont plus à l'aise que d'autres pour ce genre de choses. Ensuite, après, connaître son sujet, ça semble une évidence. La suite, c'est vraiment une question de sensibilité personnelle, quoi. Il n'y a pas de... Non, je ne serais pas capable de donner un conseil. Il y a de nombreuses façons d'arriver là. Ça peut être par l'enseignement, ça peut être par l'animation de façon générale, ça peut être par la connaissance. J'ai des collègues qui ont un doctorat, par exemple. Mais voilà, tout est possible dans ce métier, en tout cas. Oui.
Okay. Et pour les personnes qui sont passionnées d'astronomie, je me suis rendu compte en googlant ton nom sur Internet que tu as écrit un livre...
Oui.
Est-ce que tu pourrais nous en parler brièvement ?
Oh, c'est très simple. Il y a quelques années, à l'époque où j'étais chez Nature et Découverte, où je vendais du matériel d'astronomie, je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas de guide pratique pour débuter en astronomie avec un instrument. Et du coup, j'ai profité de ce que j'étais chez Nature et Découverte pour l'écrire. Et il a été vendu assez rapidement, avec succès, en fait. Et
donc, comment s'appelle ce livre ?
C'est le guide de l'astronome débutant.
Okay. Hein,
c'est un petit guide de poche.
Je mettrai la référence sur le podcast. Sur le site internet.
Avec
pour les
plaisir,
personnes
on le trouve dans toutes les bonnes librairies, comme le veut la formule. Voilà, comme le dit la formule. Et donc, voilà, aux éditions Erol.
Eh bien, merci à toi, Vincent, pour ton partage.
Mais c'était un plaisir.
On te souhaite de continuer de déposer des étoiles dans les yeux des curieux et curieuses de l'espace. Et quant à nous, chers auditeurs, auditrices, on se retrouve mercredi prochain à 13h30 sur Prune pour le rendez-vous du Café des Métiers. Et tous les jours en podcast sur prune.net. Je vous souhaite une belle après-midi, travaillez bien, aimez ce que vous faites, faites ce que vous aimez, et surtout prenez soin de vous.